Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Et voilà, retour dans nos studios en compagnie de Sophie et de Fanny, nos jeunes étudiantes, en compagnie de Odette Guiraudou, qui représente les parents d'élèves, ou qui les a représentés en tout cas si longtemps, et puis de Bernard Pérez, qui est le proviseur, on va dire comme ça, du lycée Rabelais, du cours Rabelais à Montpellier. Souvenir. Oui, demander à des jeunes en phase terminale de leurs études de se souvenir de leurs tendres années est chose ardue. Pour eux, pour elles, pour être plus exact. Comment ont-elles traversé ces années de scolarité, d'éducation parentale, de sociabilisation à vocation citoyenne ? Et le renard, d'aller picorer dans ses souvenirs quelques remarques éducatives. À toi, le renard, s'il te plaît, dessine-nous un problème.
Bien, mais moi je vais vous raconter une histoire de sang. Il y a eu l'école de la blouse grise, celle de l'autorité, pion, celle du pion, du prof, du surgé, avec son arsenal de sanctions, de punitions, d'heures de colle. L'école du silence dans les rangs, en cours, à l'étude, il fallait écouter et mémoriser. L'école de Louis Fine, qui écoutait les mouches voler, les mouches du coche, bien sûr. Pour la curiosité, la distraction, l'évasion, il y avait les livres, lus en cachette, dans le silence. Dans les cours de récré, était la loi de la jungle et l'omerta. Toujours le silence. Une autre école a fleuri, sous les pavés du printemps 68, l'école de la parole. Le pion a été chassé de l'étude, le prof est descendu de l'estrade, l'autorité a fait place à l'autogestion, à l'échange, au dialogue. La blouse grise disparue, la mixité a donné des couleurs. Les bouquins étaient sur les tables. Carpe diem, il fallait réfléchir et s'exprimer. Après l'école du silence et celle de la parole, voilà venue l'école du brouhaha. L'enseignement troque son habit d'homme de savoir pour celui d'animateur dans une école lieu de vie, démocratique et joyeux. Il doit assumer un programme sans trop bousculer les élèves, dont les cartables font pourtant l'objet de perquisitions policières. Pour la curiosité, la distraction, l'évasion, les téléphones portables ont remplacé les bouquins. Et pour nourrir ce brouhaha, l'école se veut à la fois garderie citoyenne, avec la participation des parents d'élèves, et espace ouvert aux représentants de la cité. Alors là, militants associatifs, militaires à la retraite, chefs d'entreprise, jongleurs, cracheurs de feu. Et tout ça sous vidéosurveillance et dispositifs électroniques détecteurs de métaux. Voilà, c'était mon histoire de sang.
Est-ce que vous avez une petite réaction là-dessus, à savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette école du silence, celle d'avant 68 ? À regretter ou heureusement que c'est plus ça ?
Pas facile à dire.
On n'y était pas, mais moi je pense que c'est... aujourd'hui c'est un peu mieux quand même qu'avant 68, je pense. Enfin, je sais pas. Mais on régresse quand même, on régresse aujourd'hui. Ouais, donc il faut faire attention.
Avant de parler, on estimait que pour pouvoir parler, encore fallait-il avoir quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, justement, l'instruction faisait qu'on vous permettait d'avoir quelque chose à dire. Mais d'abord, écoute et tais-toi. Non, ça vous plaît pas, ça.
Est-ce que ça formait un peu plus des étudiants du coup un peu plus policés parce que tout le monde avait la même façon d'appréhender les cours alors qu'aujourd'hui on s'exprime plus, on se différencie, on croit se différencier en tout cas.
Vous exprimez plus, mais il me semble que vous êtes beaucoup moins politique que nous.
Oui,
nous, on nous disait d'écouter et de nous taire, et pourtant on n'en pensait pas moins. Si on a eu des opinions politiques, on les a exprimées.
Alors, c'est paradoxal. Moi, je les exprime.
Oui, ça dépend qui, déjà, c'est sûr. Mais peut-être que nous, on a aussi moins de carcans, justement, à faire exploser. On a moins de choses contre lesquelles se révolter. Je sais pas.
Ça, c'est pas sûr.
Justement, j'espère que tu vas faire le contrepoids.
Bon.
Ça, c'est pas sûr. Il y a plein de choses. Voilà, on est en train de régresser. Voilà, c'est ce que je disais dans... que ce soit à l'école et même en dehors.
Régresser parce qu'on est passé justement, comme le disait le renard, à l'école du brouhaha. Donc à la limite, l'école qui te plairait le plus, c'était la deuxième phase, l'école de la parole.
Ouais, ça c'est bien, bon brouhaha, c'est un peu trop, voilà.
Ouais, parce que, du coup, ça,
mais ça c'était une école, l'école de la parole. Hein. Excusez-moi. L'école de la parole, celle qui est arrivée après 68, elle est arrivée quand même avec une base où justement il y avait eu avant l'école du silence. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'enseignant était toujours respecté, les intervenants étaient dans l'école, il n'y avait pas d'intervenant autre dans l'école.
Entrée
que
interdite à toute personne.
À toute personne, gère, c'était déjà un sanctuaire. Et donc à partir de ce moment-là, c'était le mode d'éducation qui avait changé, qui s'était ouvert, où effectivement on avait une autre façon d'appréhender l'enseignement, mais la structure, l'organisation, le perçu était quand même différent. Tandis qu'aujourd'hui, on a gardé à la fois le respect, et c'est pas pour autant qu'effectivement la parole à l'intérieur s'affirme.
Et pour autant, est-ce que les adultes aujourd'hui, du moins les enseignants, sont respectables ? J'entends considérablement des gamins, alors surtout des 10, 12, 13 ans, etc. Dans la série, tu me respectes pas, mais t'es pas respectable, mon garçon. Mais c'est réciproque aussi, peut-être, de l'autre côté. Les profs ne seraient plus respectés, mais sont-ils encore respectables ?
Oui, certains, oui. Enfin, il y en a vraiment, se demandent comment ils ont eu leur diplôme, mais la plupart, quand même, ils sont respectables.
Ça fait plaisir d'entendre les jeunes reconnaître.
C'est en 2015.
Ça c'est rassurant parce que les propos du loup.
Ne croyez-vous pas que à chaque étape que vous avez très bien décrite, on arrive à se cogner contre les murs des excès de chaque école que vous avez décrite. Il fallait un 68 parce que c'est vrai que la parole n'était que sur l'estrade et tomber sur des enfants passifs. Il fallait, donc après 68, et je crois que moi je fais partie des parents, parce que les parents ont pris leur part de la libération de 68, peut-être un peu trop, au dire de certains enseignants, mais tout le monde a voulu participer. Aujourd'hui, on devrait avoir suffisamment de recul pour voir les excès et les limites de chacune de ces phases, et devenir des adultes et des jeunes qui savent dialoguer ensemble et qui savent tirer des conclusions. Or, moi, j'attends toujours ça. On fait de beaux discours. Ça fait 30 ans que j'entends des bonnes analyses et des beaux discours. Mais les mesures de réparation ne viennent que dans le désordre, jamais avec une vue globale des choses et la volonté d'arriver à des résultats. On parle.
Si un prof a des problèmes dans sa classe, s'il en parle, c'est forcément un mauvais prof. Si un proviseur a des problèmes dans son lycée, s'il a le malheur de les signaler, c'est forcément un mauvais proviseur. Comme en Union soviétique, tout va bien, il ne faut rien dire. Comme ça, on est bien noté. Et je crois que le prof n'a pas honte d'être autoritaire. C'est son boulot aussi de faire respecter l'ordre et l'autorité. Alors, je veux bien qu'on dise qu'il y a des profs qui ne sont pas respectables. Rien que se poser la question déjà, je pense que ton petit Jules ne va pas forcément respecter les profs. Ça, c'est un premier point. Je vais donner une anecdote un peu marrante. J'ai recruté une élève il y a 3 ans, une élève adoptée, qui avait fait l'émission Le Grand Frère. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le Grand Frère à la télé. Et elle avait craché au visage du Grand Frère. Et puis moi, il n'a rien pu en faire. Moi, je l'ai prise en seconde. Et j'étais très dur avec elle. Et 2 ans après, elle est venue me dire, Monsieur Pérez, vous savez ce que j'ai vu ? J'ai vu que Pérez, en verlan, on dit respect. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que l'autorité, les jeunes ne refusent pas l'autorité, si elle est juste, évidemment. Pas taper sur les gosses, mais à mon avis, il faut quand même de l'ordre. Et on travaille bien dans le silence, dans une classe, je vous assure. Pas dans le brouhaha.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, un problème qui vient de post-68, le fait que pour les jeunes, collégiens mais surtout lycéens, il y ait ces notions de droit, le droit des lycéens, le droit, etc., oublieux de plus en plus qu'éventuellement ils pourraient avoir aussi des devoirs.
Eh oui.
Bernard.
Mais c'est le problème, j'en ai parlé tout à l'heure, du rôle de l'école, il faut rendre citoyen. Citoyen, c'est des droits, mais c'est aussi des devoirs, de respect, etc.
Et de révolte.
Oui, bien sûr, on a le droit de se révolter.
Et de travail.
Oui. Mais on ne leur apprend pas à se révolter. Ils se révoltent pour oui, pour non. Ils se révoltent si on leur pique leur téléphone. mais pas pour des choses graves.
Oh, ça dépend, on s'est révolté pour le CPE quand même.
Pour les retraites.
Oui. Non, c'est
votre génération, celle qui arrive, je ne suis pas sûr.
Ah, on est...
Il faut lui donner le temps.
Ah, ben nous, l'année dernière, on s'est bien révolté pour les retraites, hein. Il n'y avait pas de problème. Bon, plus que les autres.
C'était un peu là qu'on apprenait la citoyenneté.
Notamment à Clémenceau.
Ah oui.
J'aime bien ce mot de citoyenneté parce que on a parlé du rôle dans l'éducation des jeunes, de la famille, de l'école. Moi, je crois qu'il y a une part aussi dans l'environnement social des jeunes. Et il faut leur donner envie d'y entrer dans cet environnement. Et c'est ça, la formation citoyenne. C'est là qu'on apprend à comprendre qu'on n'a pas que des droits, qu'on a aussi des devoirs, que l'égalité, ça n'existe pas et qu'il faut aider ceux qui ont le moins de chances dans la vie.
Est-ce que c'est à l'école de nous l'apprendre, ça ?
Non, c'est pas l'école. Mais
il
c'est,
faut l'égalité.
Elle pourrait. Justement, c'est pour ça que moi, j'aimerais voir travailler ensemble le monde des enseignants, le monde des parents, bien évidemment, et le monde... des élus et des associations et c'est pour ça que je suggérais un lieu où on pourrait régulièrement confronter les expériences et décider d'objectifs à atteindre ensemble d'une façon complémentaire. On est tous solidaires et tous responsables et on n'a pas le droit de laisser nos jeunes entrer dans la vie sur des échecs. Pour moi, c'est un crime, ça. Et c'est désastreux.
Mais surtout que ces jeunes, moi, j'étais un peu méchant tout à l'heure en disant que je n'étais pas politique. En fait, ils sont plus politiques et plus généreux que ce qu'on croit.
Mais oui.
Et donc, il y a d'autres sphères en dehors de l'école, qui sont les syndicats, les œuvres, les associations caritatives, etc., où ils s'impliquent. Il faut les inciter à s'impliquer là-dedans. Et je crois que c'est un moyen de devenir citoyen aussi.
Ouais. Rôle du service civil, obligatoire ou pas, qu'on pourrait... recréer.
Ça existe.
Ça existe, mais ça marche très mal. D'abord parce qu'il n'y a pas les moyens.
Et l'État, puis il est sur fond de
l'État n'a pas mis les moyens qu'il fallait.
Et non pas d'obligation.
Mais ce serait une très bonne école de la jeunesse qui, au moins,
à se condition, à condition de ne pas perdre un an, comme c'était le cas, le régiment.
Non,
régime, hein,
non, mais c'est pas ça. C'est plus ça. Mais relisez les textes. Les textes sont très bons. Mais malheureusement, les applications sont, pour ainsi dire, impossibles.
Pour en terminer avec l'éducation nationale, stricto sensus, largement du fait de directives européennes, on s'aperçoit que depuis plus d'une dizaine d'années au moins, on est en phase de privatisation rampante de l'éducation nationale. Bon, c'est pratiquement acté maintenant au niveau universitaire, même si ça n'est pas tout à fait achevé. Et puis on le voit avec le fait qu'il y a un projet de Sarkozy où les proviseurs pourraient recruter pratiquement leurs profs, enfin, que du coup les lycées, les collèges commencent à avoir des budgets plus ou moins autonomes. Enfin, bref, on va quelque part vers une espèce de privatisation. Vous en pensez quoi, vous, Sophie, Fanny,
alors moi,
sur cette question-là ?
Je trouve ça vraiment scandaleux parce que voilà, privatisation, ça va. J'ai peur que l'école, ça finisse en. Il faut faire de l'argent, pas forcément éduquer, mais faire de l'argent.
Ou peut-être aussi arrêter de dépenser de l'argent n'importe comment.
Voilà, j'ai peur que ce soit une stratégie du gain.
En regardant l'éducation nationale.
Ce soit une stratégie du gain et que, voilà, on prenne pas les élèves qui réussissent pas, on les prenne pas parce que, voilà, ils ne feront pas gagner de l'argent. Ou alors, ben, voilà, tout simplement faire mal pour faire plus d'argent, quoi. Moi, j'ai peur que ça finisse
mais
comme
l'autonomie,
ça.
C'est pas la privatisation, là. Je tiens à mélanger un peu les deux choses.
C'est une phase verte.
Une fois de plus.
Ça, c'est on reconnaît pratiquement le pied noir, ou l'ancien pied noir, là. L'autonomie de l'Algérie, c'était pas l'indépendance de l'Algérie. Non,
vous vous gargarisez de mots et vous voyez l'intoxication que ça peut entraîner chez les jeunes. Au lieu de toujours se critiquer mutuellement, de toujours vouloir monter un bloc contre un autre bloc, mais faisons croisade ensemble. L'autonomie ne sera pas la privatisation si on fait de bonnes régulations. Si on est tous heureux de travailler ensemble parce qu'on sait qu'on a un objectif commun à atteindre. à atteindre. C'est-à-dire que les jeunes soient heureux dans notre société.
Oui, enfin, l'autonomie des universitaires a déjà conduit, par exemple, Paris-Dauphine ou Grenoble, à ce que l'inscription à l'université, qui était de 300 ou 400 euros avant, à Grenoble est aujourd'hui à 3800 euros en master, et à Dauphine, même encore un peu plus.
Eh bien, il faut aider ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ça, plutôt que de supprimer le dynamisme qu'une véritable autonomie bien vécue pourrait apporter.
Maintenant, l'autonomie, quand même, aussi, elle pose un débat. Enfin, il peut y avoir un débat derrière qui est celui de ça, que j'ai découvert. Hein. Je ne savais pas que ça existait, moi. L'enseignement utile et l'enseignement inutile.
L'autonomie, ce n'est pas ça.
Il est en filigrame. Parce qu'en fin de compte...
Les programmes restent officiels, restent nationaux. Mmh. Après, l'autonomie, ça veut dire quoi? Que le proviseur a une marge de manœuvre pour son budget, il a une marge de manœuvre pour choisir ses profs. Et oui, c'est embêtant, moi je choisis mes profs à Rabelais.
Bravo.
Mais
ça permet de former une vraie équipe.
C'est un risque, parce que certains lycées vont se récolter les profs absentistes ou autres, et les lycées cotés vont avoir les profs les plus motivés. C'est possible, mais on peut réguler tout ça. L'État sait réguler.
Mais est-ce qu'en université, les professeurs ont les moyens de...
Quand je parle, moi, d'enseignement utile et d'enseignement inutile, c'est pas simplement en savoir si telle matière doit être enseignée ou pas. C'est dans la conception, effectivement, qu'on peut avoir de l'enseignement. Pour reprendre ce que disait la jeune fille tout à l'heure, à savoir que la vocation de l'école, c'est instruire, ou la vocation de l'école, c'est former. Et donc, à partir de ce moment-là, selon... l'établissement, selon...
Si vous avez une autonomie, moi ça fait 25 ans que je suis jugé par le marché. Si vous avez une autonomie, vous êtes obligé de répondre à la demande. Et moi je réponds à la demande, c'est-à-dire ils ont le bac et en plus ils sont éduqués et instruits. Donc l'autonomie, un peu d'autonomie, c'est pas si mal que ça. J'ai pas dit que j'ai... Alors entre le marxisme, je vous connais un petit peu, et le marché, il y a un juste milieu.
Ce serait sociologue, ça m'étonnerait pas, celui-là. Bon.
Non, social trait.
D'accord. Bon. Je voudrais qu'on aille encore un tout petit peu plus loin là-dessus. Et là, je m'adresserai à Odette, parce que je crois que c'est une des thématiques, de vos thématiques favorites. Est-ce que, la question vaut pour tout le monde, est-ce que vous avez vraiment envie, les uns et les autres, de vivre ensemble? Je vous dis, au niveau génération, en tant qu'élève, en tant que parent d'élève, en tant qu'enseignant, vivre ensemble dans le cadre de l'école et au-delà du cadre de l'école, dans la cité.
Je crois que j'ai déjà répondu. Hein. Moi, c'est mon grand rêve. Et c'est ça qui ramènera dans la société une envie de progresser, une envie de participer et une espérance dans l'avenir. Sinon, chacun pour soi, toujours démolir l'autre, se contenter de la médiocrité, de la consommation excessive. Moi, j'apprends beaucoup avec des jeunes qui remettent tout ça en question, qui fuient la société de consommation pour vivre du minimum et de l'agriculture proche de la terre, par exemple.
Ce sont les décroissants, quoi, ceux qu'on appelle les décroissants aujourd'hui.
Voilà. Eh bien, moi, malgré l'expérience acquise, et je me remets aussi en question et je me demande si c'est pas eux qui ont raison.
Je crois que oui.
Le vrai bonheur, c'est là.
On veut vivre ensemble de façon intergénérationnelle, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire? Est-ce que c'est facile vu qu'on n'a pas le même, comme chaque génération, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes attentes? Et en plus, on a un peu l'impression de vous avoir déçu, entre guillemets, parce qu'on disait après 68, maintenant ça va évoluer, il y a encore d'autres carcans qui vont exploser, tout ça. Et nous, on se retrouve au final à... On nous dit qu'on n'est pas politique, on nous dit qu'on n'est pas très bon, qu'on n'apprend pas grand-chose.
Mais c'est pas votre
bon.
Faute.
On a une vision un peu noire de notre génération, je trouve, un peu triste, quoi. On se dit, maintenant qu'on a plein de moyens, on a Internet, on a vraiment les moyens de faire bouger les choses, et il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, est-ce qu'on a du mal à échanger dit,
tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que ma génération qui est née, moi, dans les années 50, hein, c'est Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, tous ces gens-là.
Mes parents.
Mélenchon, moi. Cette génération a du mal à comprendre qui vous êtes. Moi, j'ai mes élèves qui s'assoient en face du lycée. Il y a des parents qui m'appellent au téléphone, mais de manière anonyme. Vos élèves sont mal élevés, ils sont toujours assis sur le trottoir. Ils m'empêchent de passer, mais je dis, dites-leur, ils vont se lever, ils ne sont pas si méchants que ça. Mais certains ont peur de vous. Vous êtes un autre monde pour eux. Vous avez un vocabulaire à part.
Carrément.
Alors qu'ils ont oublié que nous, au début des années 70, on était pire. C'est-à-dire, on avait les cheveux, on avait les cheveux très longs, on était avec des treillis. Mon père était militaire, je veux dire, pour lui, c'était un choc de culture. Et eux, là, vous n'êtes pas si différents de nous.
Voilà, c'est ça, il n'y a pas tellement de choc de culture.
Et pourtant, il y a une cassure. Vivre ensemble, comment faire? C'est ça qui est difficile, parce qu'il y a des adultes de ma génération qui ne comprennent pas ces jeunes.
Ah justement, pour vous, au niveau des jeunes, des étudiants, quelle serait l'époque bénie de la jeunesse pour vous? Est-ce que c'est l'époque de 68, celle au contraire d'avant 68, celle de juste après, celle qu'on appelait la pauvre génération? Ce serait quoi l'époque bénie pour vous, dans laquelle vous auriez aimé vivre? La vôtre, éventuellement?
J'ai un peu pensé, enfin, l'époque bénie, c'est pas évident, parce que quand je me dis les années 70, à part la musique que j'aurais rêvé de connaître, je me dis non, pas vraiment, parce que mes parents, donc cette génération, ils ont vécu une libération des mœurs, une rupture avec les générations précédentes, etc. Donc c'était intéressant à connaître. Mais en même temps, je me dis, pour prendre un exemple proche, ma mère à 20 ans, c'était tu vas en cycle court parce que le prof a dit ça et les parents ont suivi et c'était comme ça et pas autrement, alors qu'elle voulait faire des lettres, des trucs. Bon. Bref, après elle a connu l'usine et voilà, jusqu'à ce qu'elle rebondisse. Je me dis, moi à 20 ans, j'ai choisi mes études aussi longtemps que je voulais, j'ai voyagé, j'ai fait des choses. Donc je me dis, non, je peux pas dire que c'était une époque bénie. Ceux qui ont connu la guerre avant, encore moins. Donc, est-ce qu'il y a une époque bénie? Non, pas pour moi.
Moi, peut-être mes 68, j'aurais bien voulu connaître ça, mais après, non. Voilà, je suis bien dans mon époque et
pour
tout. Et voilà, il y a du goudron de partout, donc ça va être dur. Mais non, moi, je trouve que notre époque aujourd'hui, elle n'est pas géniale, mais bon, elle est pas mal non plus. Donc, et puis, notre truc, c'est à nous de la faire bouger, donc voilà.
Tout à fait. Bien.
Want to sign check, it's okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.